Bonjour tout le monde. On va lire un verset dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 8. Je suis bien entouré, hein. Avant de lire ce verset, j'aimerais juste attirer votre attention sur ce dessin, sur l'écran. Il y a très longtemps, Brigitte a fait ce dessin, basé sur un dessin de Annie Valoton, qui a illustré parmi d'autres la Bible en français courant. Et ce dessin représente les sept paroles de Jésus quand Jésus dit « Je suis ». Est-ce que vous voyez le pain? On va pas prendre dans l'ordre biblique. « Je suis le pain de vie ». Hein? Une baguette. « Je suis », numéro 2, c'est « La lumière du monde ». Vous voyez la lumière. Numéro 3, c'est « Je suis la porte ». Numéro 4, « Je suis le bon berger ». Vous voyez? Numéro 5, je suis, c'est le plus difficile, la résurrection et la vie, avec la croix, il est mort, mais il est ressuscité. Numéro 6, je suis le chemin. Bon, la vérité et la vie, ça va ensemble. Et numéro 7, je suis le vrai cep. Et vous voyez le cep autour du R. Voilà. Les sept « Je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean. Nous allons lire donc dans Jean 8 et le verset 12. J'ai déjà mis sur l'écran ce verset selon la Bible seconde 21. Je vous le lis. « Je suis, moi, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. » Il y a 15 jours, nous avons médité « Je suis le pain de vie ». Aujourd'hui, « Je suis la lumière du monde ». Et comme vous savez, plus ou moins tous les 15 jours, on va reprendre une de ces paroles de la bouche du Seigneur Jésus. Ces paroles-là, dans Jean 8, ont été prononcées lors d'une fête juive. Vous savez, le calendrier était rempli de différentes fêtes, et cette fête s'appelait soit la fête des tentes, soit la fête des tabernacles, soit la fête des cabanes. Et le nom qu'on donne à cette fête aujourd'hui, c'est la fête de Soukhot. Et c'était une fête qui était stipulée dans la loi, les Juifs devaient se rappeler que Dieu les avait délivrés de l'Exode, et que pendant la délivrance, pendant les 40 ans d'Exode, eh bien, Dieu avait pourvu à tous leurs besoins. Et que les gens habitaient sous tente. Et pendant une semaine, une fois par an, les Juifs devaient vivre sous tente pour se souvenir de ce que Dieu avait fait. Et que pendant 40 ans, tout le peuple habitait sous tente. Et cette fête en France va se fêter courant octobre cette année, ça change bien sûr tous les ans. Et si vous regardez bien dans certains jardins ou sur certains toits d'immeubles, d'appartements, vous allez voir des tentes, des habitations temporaires, et certains juifs pieux veulent respecter cela aujourd'hui. Et moi je connais des juifs pieux ou même des juifs messianiques qui mettent une tente dans leur maison. Parce qu'au mois d'octobre, dormir dehors, sous tente, c'est pas évident. Mais ils mettent une tente dans leur maison et ils vivent sous tente.
Claude Collin a lycée, là, rue Marius-Berliet. Chaque fois qu'il y a pendant tout le lycée, ils montent cette fête-là, une cabane, et ils mangent tous les jours, les élèves, tout le lycée mange tous les jours. Ceux qui n'ont pas mangé sous la cabane, ils vont mettre la quitte.
Voilà, exactement. Donc, c'est une fête qui perdure même aujourd'hui auprès de nos amis juifs. Alors, en ce qui concerne cette fête, à l'époque de Jésus, ça se faisait bien sûr à Jérusalem, Et il y avait deux grands événements, on va dire, symboliques, qui concernaient deux choses, l'eau et la lumière. Je m'explique. Pendant cette fête à l'époque de Jésus, et ça s'est fait pendant qu'il était à Jérusalem, Jean 7, Jean 8, les gens allaient chercher de l'eau à l'étang de Siloé, qui est à Jérusalem, ils prenaient l'eau jusqu'au temple, et ils versaient l'eau à côté de l'autel du temple, en souvenir du fait que Dieu avait donné de l'eau à son peuple pendant 40 ans. Un petit geste symbolique, mais qui était visible et très parlant. Et aussi, une deuxième chose qui s'est passée pendant la fête à l'époque de Jésus, puisque ça s'est passé à Jérusalem, devant le temple, ils avaient mis 4 énormes, on va dire, des torches ou des lampes pour éclairer le temple. Et à plusieurs kilomètres à la ronde, on pouvait voir cette lumière loin de Jérusalem, on pouvait voir sur la colline qu'il y avait de la lumière. Et ces 4 torches étaient allumées pour éclairer le temple et pour envoyer un message au monde entier. Et ce message était tout simplement notre temple, notre pays, notre ville, notre peuple, nous sommes la lumière du monde. C'était ça le message. Venez à Jérusalem et vous aurez la lumière. Et c'est dans ce contexte-là, avec ces lumières, que Jésus a osé dire quelque chose de courageux. Je suis, moi, la lumière du monde. Pas un peuple. Pas un bâtiment, qui sera bientôt détruit d'ailleurs, pas des traditions, pas une ville, mais c'est moi, la lumière du monde. Alors il faut dire qu'il fallait qu'en entendant ces paroles, il fallait être complètement aveugle, sourd, têtu, borné, obtus, pour ne pas comprendre que Jésus contredisait toutes les traditions pour dire « c'est pas vous la lumière du monde ». C'est moi. Jésus, Fils de Dieu, déclare au monde entier, je suis, moi, la lumière du monde. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 4 torches qui étaient allumées. À vrai dire, il y avait toujours une cinquième qui n'a jamais été allumée. Et le peuple juif disait, quand le Messie sera là, on va allumer celle-ci. Ils étaient aveugles. Ils ne voyaient pas que le Messie était déjà là. Et cette torche n'a jamais été allumée. Je suis la lumière du monde. Le thème de la lumière se trouve depuis le premier chapitre jusqu'au dernier chapitre dans la Bible. C'est un thème cher à l'apôtre Jean, mais c'est un thème qu'on trouve partout dans la Bible. Rappelez-vous, une des premières paroles dans le livre de la Genèse, que la soit. Beaucoup de nos chrétiens connaissent ce texte. Hein? Que la lumière soit. Ils ne savent pas d'où ça vient peut-être, mais que la lumière soit. Et à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, chapitre 21-22, Dieu promet, il n'y aura plus de lumière. Plus de lampe. Plus de soleil. Plus de lune. Parce que Dieu dit, je vais éclairer mon peuple. Un jour, il n'y aura plus de cette lumière-là que nous voyons. Mais une autre lumière. Dans l'évangile de Jean, il est souvent question de la lumière. Déjà, depuis Jean 1, Jésus est appelé la lumière. Jésus est appelé la lumière qui a brillé dans les ténèbres. Jésus est appelé la lumière qui a brillé dans les ténèbres, mais que les ténèbres ont refusé. Jean-Baptiste, on croyait, est-ce que c'est lui la lumière? Mais Jean, l'évangéliste, dit bien, Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Jean est venu pour parler de Jésus. Au chapitre 3, nous disons que la lumière est venue dans le monde, mais que le monde a préféré les ténèbres à la lumière. C'est à la fois choquant et triste de préférer tout ce qui est ténébreux à tout ce qui est clair. Mais vous connaissez certains des gens comme moi qui préfèrent les ténèbres à la lumière, qui préfère ce qui est laid et moche à ce qui est beau et agréable, qui vient du Seigneur. Jésus dit ça dans Jean 3, et si vous voulez savoir d'autres choses sur la lumière, eh bien, je vous encourage à lire tout le chapitre de Jean chapitre 3, qui parle de la lumière qui brille et qui révèle les ténèbres. Alors, revenons à cette déclaration de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette déclaration? Eh bien, je propose qu'on peut comprendre deux choses. La première chose, c'est que Jésus peut et veut vous éclairer si vous n'êtes pas converti. Et deuxième chose, Jésus veut et peut nous éclairer si on est déjà converti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, prenons le premier point d'abord. Ça ne veut pas bouger, ça va venir. Voilà. Jésus veut, il peut vous éclairer si vous n'êtes pas converti. Je ne vous connais pas tous. Tout le monde ici ne me connaît pas. Mais si vous n'êtes pas converti, eh bien, sachez que vous avez besoin de vous convertir. Et Jésus peut faire briller sa lumière dans votre cœur et dans votre vie pour vous montrer toute la noirceur et toutes les saletés qu'il y a dans votre vie, pour parler à votre conscience, pour vous réveiller. Et lorsque le Seigneur parle à une conscience et réveille quelqu'un, eh bien, il peut dire, comme le peuple d'autrefois, « On marchait dans les ténèbres, mais une lumière a brillé. » Ésaïe 9, verset 1. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Une lumière a brillé. » Il s'agit d'une prophétie messianique prononcée des siècles avant la naissance de Jésus, comme quoi Jésus allait briller dans les ténèbres. Et quand on se convertit, quand on accepte la lumière, on peut dire avec les psalmistes qui disent « L'Éternel est ma lumière, il m'éclaire, il éclaire mes ténèbres. » On peut dire avec l'autre psalmiste « L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. » Donc je répète, si vous n'êtes pas au Seigneur, eh bien vous avez besoin de cette lumière parce que la Bible dit que tous nos chrétiens sont dans les ténèbres et il y a besoin d'être éclairé. Il y a des chants qu'on chante par rapport à ça. Je pense au vieux chant des frères Chefneux. Je suis Jésus, la vérité, le chemin et la vie. Et ils disent, j'ai vu la lumière. Elle m'a éclairé. 135 dans Jérémie l'Éternel. Et je pense à l'autre vieux cantique. Je ne sais comment, ou je ne sais pourquoi dans sa grâce, Dieu m'a tant aimé. Au deuxième ou troisième couplet, on chante, je ne sais comment la lumière a éclairé mon cœur, comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Parce que quand la lumière de Dieu éclaire un cœur, on connaît un peu de misère jusqu'à ce qu'on reçoive le Seigneur qui nous pardonne. Donc en tant que non-chrétien, on a besoin de la lumière. Mais si nous sommes convertis, eh bien on a besoin de la lumière de Dieu. Je suis la lumière du monde. Alors, comment est-ce qu'on a besoin, ou pourquoi est-ce qu'on a besoin de la lumière de Dieu? Eh bien, premièrement, pour nous montrer nos péchés. Alors, je suis loin de dire qu'un chrétien n'est pas un pécheur, parce que nous, chrétiens, on a besoin d'être éclairés sur notre propre cœur. Parce que nous restons, bien sûr, des pécheurs, parfois des grands pécheurs. Mais par le moyen de la prière, de la parole de Dieu, j'ose dire, par la prédication de la parole et par notre proximité avec Dieu, Dieu peut éclairer notre cœur et nous montrer des choses qui ne lui plaisent pas. Sa lumière va dans tous les recoins de notre cœur et peut dévoiler des choses. Il va déplacer des meubles et trouver de la poussière derrière les meubles. Il va nous dire, il faut nettoyer ça, mon petit, ma petite. Dieu veut et peut nous éclairer. Et on a besoin de cette lumière qui vient de Dieu. Et cette lumière vient par le moyen, comme je disais, de la prière, de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, et de notre vie quotidienne avec le Seigneur. En Grande-Bretagne, excusez-moi cette illustration, en Grande-Bretagne, il y a bien sûr, des bibliothèques. Et dans les comment expliquer ça? Dans les bâtiments qui sont anciens, qui datent de plus de 100 ans, qui servent toujours à des bibliothèques, il y a un verset biblique au-dessus de la porte d'entrée. Parce que l'idée était de témoigner, mais un verset biblique au-dessus de la porte de l'entrée de toutes les anciennes bibliothèques de la Grande-Bretagne. Et ce verset biblique, vous allez être étonné, est tout simplement, ben c'est même pas un verset, c'est une phrase biblique, que la lumière soit. L'idée était, si vous venez dans ce bâtiment, vous allez apprendre des choses, vous allez lire des choses, et eh bien vous allez être éclairé. Peut-être aucune allusion à Dieu, mais c'est intéressant qu'il y ait cette phrase biblique au-dessus de ces bâtiments publics. Eh bien, moi, je me dis, quand on lit la parole de Dieu, le livre, eh bien, que la lumière soit. Que Dieu nous éclaire et que Dieu nous montre nos péchés. Et qu'on soit prêt à accepter ce qu'il nous montre. Deuxièmement, on a besoin de la lumière de Dieu pour nous guider, pour nous conduire, pour nous aider à savoir quelle décision prendre. Et ce verset que certains connaissent par cœur, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le psaume 119, verset 105. On a besoin de la parole de Dieu, de sa lumière, parce que parfois on est dans les ténèbres, ou on est dans le flou, ou on doit prendre une décision. Eh bien, grâce à sa lumière, il peut nous parler. Et vous parlez à n'importe quel chrétien, il peut vous raconter, j'espère, plein d'expériences où tel verset lui a parlé dans telle situation. On a besoin de la parole de Dieu pour nous éclairer. Et si vous êtes un chrétien et vous ne lisez jamais la Bible, ou que le dimanche matin, de temps en temps, parce que vous êtes au culte, eh bien, je vous plains. Parce que vous manquez de lumière. Et vous avez besoin d'être éclairé par Dieu jour après jour. Troisième raison pour laquelle on a besoin de cette lumière, c'est parce que Dieu veut nous avertir. On chante parfois comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Alors, une des raisons d'être d'un phare, c'est bien sûr pour avertir. Avertir les marins, avertir les capitaines de bateaux. Ne vous approchez pas, danger. Approchez-vous à vous risquer péril. Eh bien, parfois, lorsque Dieu fait briller sa lumière sur nous, c'est pour nous avertir. Attention. Doucement. Fais demi-tour. Ralentis. Parfois, Dieu parle à notre conscience pour nous avertir, pour nous mettre en garde. Et il fait cela parce que Jésus dit, « Je suis, moi, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. » Si parfois vous vous sentez mal à l'aise en lisant la Bible, eh bien, c'est bien. Parce que Dieu veut vous mettre mal à l'aise. Il veut vous avertir. Il veut vous corriger. Il veut vous ramener sur le bon chemin. J'ai déjà dit, mais j'ai redit qu'une chose qui me rend triste, très triste, c'est de rencontrer des chrétiens qui ont fait des mauvais choix, qui ont accepté des mauvaises priorités dans leur vie, et qui ont quitté le chemin que Dieu voulait pour eux. Et ils sont misérables, parfois agressifs, et ils sont dans les ténèbres. Pourtant, ils ont eu des bons conseils, mais ils les ont rejetés. Ils ont eu des versets bibliques pour les éclairer, mais ils ont rejeté ces versets. Et ils ont été avertis, mais ils n'écoutent pas les avertissements. Si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez toujours faire demi-tour, revenir au Seigneur et lui demander pardon de votre égarement et du refroidissement de votre cœur. Il y a une petite phrase très significative dans l'évangile de Jean, chapitre 13, je crois bien, où Judas a décidé de vendre, de trahir Jésus. Il est écrit Judas, donc avec les douze et avec le Christ, il est écrit Judas sortit. Point. Il faisait nuit. Je ne sais pas si cette phrase vous a frappé, mais il faisait nuit dehors. C'était pendant la nuit. Mais on peut dire que dedans, il faisait nuit. Dans son cœur, il ne voyait pas. Et si dans votre cœur, aujourd'hui il fait pas très beau, mais il fait pas nuit encore, mais si dans votre cœur il fait nuit, eh bien, venez au Seigneur pour qu'il fasse briller sa lumière sur vous, pour que vous puissiez voir le jour par la repentance. Quatrièmement, on a besoin de la lumière, c'est peut-être un peu petit ça, pour nous protéger. Je vous lis ce verset dans Proverbe 4. Le sentier des justes ressemble à la lumière. La vie des injustes ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fait trébucher. Cela va de soi que si vous êtes dans une pièce avec des meubles, il n'y a pas de lumière, eh bien vous risquez de tomber. Vous risquez de vous cogner sur un meuble. Vous faire mal ou pas mal, peu importe. Mais on peut trébucher dans la vie. Et le Seigneur nous donne sa lumière, sa présence, pour nous protéger. Pas seulement de faire des faux pas, ou de prendre, de suivre de fausses pistes, mais de tomber dans des choses graves. Le Seigneur veut nous protéger pour qu'on ne trébuche pas, pour qu'on ne tombe pas. C'est pour ça qu'il a dit, « Je suis la lumière du monde. » Il peut et il veut nous éclairer. Et cinquièmement, le Seigneur nous dit, je suis la lumière pour nous fortifier. C'est intéressant que dans le psaume 27, le psalmiste dit, l'Éternel est mon salut et ma lumière. De qui aurais-je crainte? Pas seulement mon salut, mais ma lumière. Une lumière qui nous fortifie. L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Ou qu'est-ce que je devrais redouter? Eh bien, selon le psalmiste, il dit, même si une armée est devant la maison, je serai, malgré cela, sans peur, sans crainte. Parce que Dieu est ma lumière. En tant que lumière, le Seigneur peut nous protéger, mais en tant que lumière, il peut nous fortifier. Dans la vie, ces lumières-là, dans cette salle, ne nous fortifient pas. Mais la lumière qui vient de Dieu, elle nous fortifie. Elle nous fait du bien. D'où l'importance de lire la parole de Dieu. J'étais avec un groupe de chrétiens vendredi soir, pas loin d'ici, et on a eu un moment de discussion par rapport à la lecture de la Bible, et une jeune femme qui a 25 ans, institutrice, ou comme on dit maintenant, professeur d'école, eh bien, elle a dit, mais tu sais, pendant longtemps, je lisais la Bible tous les jours. Et j'ai arrêté pendant quelques mois l'année dernière. Et j'étais perdu. Et je me suis dit, il faut que je revienne à la lecture quotidienne. Et il a dit, et maintenant que je l'ai refait, ça me fortifie. Et je me suis dit, mais c'est très bien. Elle lit la Bible, elle reçoit la lumière, et cette lumière, non seulement elle l'éclaire, mais cette lumière fortifie cette jeune chrétienne. Donc, Jésus, la lumière du monde, il est là pour nous montrer nos péchés. Il est là comme lumière pour nous montrer le chemin à prendre, pour nous avertir, pour nous protéger, pour nous fortifier. Je suis la lumière du monde. Qu'est-ce qu'on devrait conclure de tout cela? Eh bien, je pense à un verset dans 1 Thessaloniciens qui dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes tous enfants de la lumière. À ceci, j'ajoute Éphésiens 5. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, 8. 1 Thessaloniciens 4, verset 5. Nous devons nous comporter comme des enfants de lumière ou de la lumière. Ça, c'est la conclusion. Jésus dit, je suis la lumière. Est-ce que nous nous comportons comme des enfants de lumière? Si c'est le cas, nous allons demander au Seigneur constamment de nous éclairer. Et si c'est le cas, Si nous demandons au Seigneur constamment de nous éclairer, de nous protéger, de nous conduire, nous devons constamment accepter ces éclaircissements. C'est une chose de dire, Seigneur, éclaire-moi, brille sur moi. C'est une chose de chanter, comme on chante parfois, brille sur moi. Et c'est autre chose d'accepter que sa lumière brille sur nous. C'est facile de dire, Seigneur, éclaire-moi. Et c'est autre chose de dire, Seigneur, merci de m'avoir montré cela. Aide-moi à vivre en fonction de ce que tu m'en montres. Conclusion donc, demandez au Seigneur la lumière du monde de nous éclairer. Deuxièmement, acceptez ses éclaircissements. Je suis, moi, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au contraire, la lumière de vie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons d'avoir envoyé ton Fils Jésus dans ce monde enténébré. Merci car il a brillé dans les ténèbres. Merci car il a brillé dans les ténèbres de notre cœur. Merci car sa lumière est plus forte que les ténèbres. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à toujours avoir le réflexe de te demander de nous éclairer, de briller sur nous. Et nous te prions de nous aider à accepter tes éclaircissements et de nous aider à nous conduire comme des enfants de lumière. Merci car autrefois, il est vrai, nous étions ténèbres. Merci car aujourd'hui, nous sommes lumière grâce à Jésus. Amen.